J'étais en train d'écrire un article pour Alan et je le faisais relire à des gens. Et une des personnes du marketing disait oui, c'est ce genre de langage, par exemple, j'utilisais, je ne sais plus, on, et puis je mettais un S, tu vois. Et on avec accordé au pluriel. On est des gens transparents, par exemple. Enfin, on est transparent plutôt avec un S. Et elle disait, ah là là, ça se dit pas, nanana. Et évidemment, ça se dit pas, c'est vrai. Enfin, techniquement, c'est une rupture grammaticale par rapport au sens de on, qui est la troisième personne du singulier. Mais l'usage oral, l'usage parlé, fait qu'on remplace on par, enfin, nous par on très facilement. Et je voulais jouer justement sur cette déformation orale très répandue, l'intégrer à l'écrit pour créer une facilité d'accès, une amicalité du ton écrit. Et c'est quelque chose qui est difficile de quantifier ou de guider de manière précise, parce qu'il y a beaucoup de trucs. Dire en termes de, par exemple, c'est pas une expression qui se dit, c'est pas une locution qui s'utilise.
Oui, le débat entre en termes de et en matière de, et quand l'un est approprié et pas l'autre.
Voilà, ce genre de débat, quoi. Il y a plein de moments où, effectivement, l'Académie française donne un avis, quelqu'un d'autre donne un avis, puis bah, les gens parlent après comme ils veulent, quoi, au final. Et que...
Ouais, l'usage tranche, ouais.
Ouais, l'usage tranche, exactement. Et quand tu veux faire cette passerelle entre l'usage oral et l'écrit pour créer de la familiarité, ça peut être difficile à mesurer, à quantifier et à structurer. Parce que justement, on parle de choses très, très fluctuantes et plutôt personnelles.
Mais tu vois, c'est un truc en écrivant mon papier sur Pour les 10 ans de Siri, que j'ai écrit uniquement parce que j'avais le titre, L'intelligence superficielle.
J'ai beaucoup aimé ce titre, hein, je dois préciser, c'était très bien.
Mais donc j'ai retrouvé cette anecdote où c'était un des cofondateurs de Siri, Dak
Ouais.
Klaus, qui disait on voulait que Siri parle comme si c'était une personne qui se trouvait au bout du fil. Avec tout le sous-entendu de on lui a pas donné une voix sexuée, on lui a donné une voix de femme, on voulait que ce soit une voix pas seulement féminine, mais une voix espiègle, avec tout ce que ça sous-entend, et l'insistance sur ah, Siri, c'était le nom d'une collègue, d'une de mes collègues, en norvégien, ça veut dire belle femme qui vous mène à la victoire, tout ceci, tout cela. Enfin, bref. Le pire de la technologie faite par des mecs blancs depuis la Californie, sur ce point-là. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, des trois ou quatre, si tu admets que Bixby soit intelligent, des trois ou quatre assistants intelligents du marché, je crois que je préfère Siri précisément parce qu'elle ne me parle pas comme une personne au bout du fil. Et elle parle peu. Ou d'ailleurs, il parle peu parce que chez moi, il parle avec une voix masculine, Siri.
Pareil, ouais.
Alexa est super bavard en comparaison.
Extrêmement bavard, il comprend pas. Enfin, j'ai toujours eu un rapport compliqué avec Siri parce que de toute façon, je crois que par nature, les assistants vocaux sont peu fiables. Parce que déjà, nous, on élocute de manière peu fiable et tutti quanti. Le fait est que j'ai des amis qui avaient essayé Alexa puis Google, là. Je sais pas s'il a un nom d'ailleurs, Google. Assistant Google, c'est ça?
Oui, je crois que
Son...
c'était l'assistant. Ouais.
Ouais. Et autant sur des choses très précises, raconte-moi une blague ou des choses comme ça, ça marche très bien. Autant sur globalement, tu te sens pas. Enfin, la réponse manque quand même. Ça tape à côté, quoi. Il n'y a pas d'intelligence globale. Je dis pas que Siri est intelligent, loin de là. Mais il y a une forme d'imperfection plus réussie, plus humaine, ou en tout cas plus adaptée à l'humain, peut-être, chez Siri. Parce que justement, on s'attend pas à avoir. Enfin, on sait bien, on n'a pas cette suspension de la crédulité en se disant, bah, on va appeler quelqu'un, on va appeler un ami. C'est pas un ami, Siri, quoi. En général, on l'appelle pour lui dire, fais une blague de prout ou l'insulter, tu vois. Et bon, même si on fait ça ensemble aussi, Anthony, bien sûr, mais bon, quand même, voilà, tu vois la nuance. Et là, c'est assez imparfait, et du coup, peut-être un peu comme on disait la dernière fois, en fait, suffisamment rugueux, dans un sens,
Oui.
pour qu'on y projette ça, justement, cette relation qui n'est pas d'attente particulière, en fait.
Oui, puis quelque part, c'est si elle faisait la conversation et qu'elle prétendait, et encore une fois, désolé de féminiser Siri, mais...
c'est pour l'étymologie, on va dire.
mais si on prétend que c'est vraiment une intelligence artificielle conversationnelle, alors dans ce cas, c'est un échec patent, parce qu'on est très 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 loin du compte. Et finalement, c'est peut-être le bon calcul de la faire parler peu, mais de la faire réagir de manière très humaine, notamment, j'aime bien, depuis quelques années, elle a ses petites intonations, ou pour te faire patienter, oui.
Oui, j'aime bien ça aussi.
Ce genre de petites choses qui sont pour le coup très, très naturelles, pas du tout artificielles. Et elle essaye pas de se lancer dans des grands speeches pour justifier ce qu'elle fait. Et du coup, quand elle se plante, bah, tu te dis oui, c'est normal. Elle est incapable de me faire la conversation, donc pourquoi je m'attends à ce qu'elle me la fasse?
C'est ça, les attentes sont assez basses. Ouais. Là où, peut-être aussi, nous en tant que geek en plus, peut-être, on attend de Google, par exemple, que vu le trafic de données qu'ils font, ils devraient avoir un truc potentiellement, tu vois, pas trop con derrière. Mais c'est même pas le cas, tu vois. C'est un peu comme le deal des télé connectés. Tu vends toutes tes données comme ça. Enfin, tu les vends même pas parce que tu les donnes. Hein. Ouais. Et derrière, t'as même pas un service qui vaut la peine. Alors, ça sert vraiment à rien.
Et Alexa, elle est tellement pipelette qu'elle te parle même sans que tu lui aies rien demandé. Au contraire, elle vient vers toi, ce qui est pas inintéressant, et je crois vraiment qu'il faut aller vers ça, mais elle vient vers toi pour te vendre du PQ sur Amazon, ce qui est quand même l'application la plus triviale de tant de décennies, voire de siècles de recherche sur l'informatique et l'intelligence artificielle. Et ça casse tellement rapidement, si tu veux, elle c'est une super démonstration technologique, mais vraiment démonstration technologique. C'est-à-dire que ça va pas plus loin que ça, quoi. Et du coup, je trouve Alexa, alors que sur certains plans, c'est un assistant bien plus abouti que Siri, je le trouve vachement plus frustrant que Siri parce que l'approche d'Amazon est affreusement plus prétentieuse que celle d'Apple.
Oui, c'est intéressant. Il y a le côté aussi effet démo, en fait, en permanence.
Ouais.
Justement, avec cette malédiction qui fait que ça plante forcément à un moment, en général, assez tôt.
Et puis, je sais pas, peut-être que... Enfin, il y a aussi un... Enfin, je pratique plus Siri que les autres, parce que je pratique Alexa et Google chez les gens, alors que je pratique Siri chez moi, mais... Le fait aussi d'avoir Siri littéralement collé à la peau avec l'Apple Watch et les AirPods, moi qui ai longtemps été réfractaire aux assistants vocaux, je me rends compte qu'en fait, dans la quasi-totalité des cas, je m'en sers sur la montre. Et c'est puissant, c'est vraiment transformateur. C'est là où ça te montre comment l'informatique vestimentaire change ton rapport à l'autre. Je me suis pris une fois à la boulangerie à demander le pain en gardant les AirPods dans les oreilles. Je m'en suis rendu compte après. Je me suis senti incroyablement gêné parce que c'est le genre de truc, si quelqu'un me le fait, je trouve ça affreusement insultant, quoi. Très mal élevé.
Oui.
Mais il y avait un côté très naturel parce qu'il y a le mode transparence. Et je l'avais sur les oreilles parce que je venais de parler à Siri. Parce que j'étais dans une conversation... dans une conversation de messages, soit avec toi, soit avec ta sœur. Et voilà, Siri me lisait les messages, répondait à Siri pour répondre aux messages, et ça semblait tellement évident. Il y a un côté, il n'y a plus d'interface, sauf qu'en fait, l'interface, elle est littéralement dans mes oreilles, et que les gens la voient. Oui. Moi, je la vois pas, je la sens pas, je la conçois pas. Et là, ça marchait vraiment bien, je trouve, Siri. Et c'est peut-être d'ailleurs dans ce genre d'application-là que Siri marche vraiment bien. Mais... Enfin, je trouve le paradoxe assez intéressant. L'interface s'efface, mais en même temps, je mets un mur entre moi et autrui avec les écouteurs dans les oreilles.
Oui. Ça m'est arrivé aussi avec les AirPods Pro, parce que avec les autres, pour le coup, je les enlevais systématiquement, vu qu'il n'y a pas ce mode transparence. Et le mode transparence est vraiment, vraiment efficace. C'est bluffant, quoi. Je veux dire, t'es vraiment. T'entends même mieux ce qui se passe dehors, ouais, presque. Ouais. Parce que c'est seulement les choses qui comptent vraiment que tu entends, j'imagine. Et. Du coup, effectivement, ils sont légers, tu les as dans l'oreille, l'oreille s'habitue, enfin, c'est facile à oublier. Ouais.
Et on parlait de réalité augmentée, on parle de réalité augmentée toutes les semaines.
Ça, on n'a pas arrêté depuis le début.
Mais, par exemple, je me sers beaucoup de... Quand je dois aller à une destination à pied et que je ne sais pas trop où c'est, je lance le plan sur l'iPhone, je me laisse guider par Siri, ou en tout cas par la voix de synthèse de plan. Avec le mode transparence dans les oreilles. Et c'est, du coup, non seulement t'as ton audition qui est augmentée par le mode transparence, mais en plus t'as cette couche par-dessus la réalité, donc c'est de la réalité augmentée déjà, avec le guidage par la voix. Et c'est, ouais, sur plein de plans, Siri, c'est incroyablement décevant, mais bordel que c'est puissant quand ça marche.
Est-ce que quand tu es à vélo avec Siri
Non,
dans
non,
les
déjà,
oreilles?
à vélo et quelque chose dans les oreilles, c'est non. Non.
Non, d'accord, c'est une bonne réponse.
Non,
Non,
non. Là, je vois dans les commentaires
ouais.
de l'article sur Siri des gens qui se plaignent que ça marche pas quand ils sont en voiture, mais il y a un côté, mais putain, les mecs, si vous êtes en voiture, conduisez, quoi.
Je rebondis sur ce que tu disais sur la puissance de Siri. C'est vrai que globalement, il y a. T'as fait le petit monde de Siri. Dis Anthony. Par rapport au. Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'habitue aussi. Je pense que le fait de ne pas avoir beaucoup d'attentes par rapport à Siri, surtout qu'il est souvent classé en dernier dans les classements, ou pas loin des derniers dans les classements d'assistants vocaux qui valent ce qu'ils valent. On s'habitue plus volontiers peut-être aussi à avoir la syntaxe spécifique qu'il requiert. Tu vois, par exemple, il va pas réagir de la même manière si tu demandes la même chose mais différemment. Tu vois ce que je veux dire? Si tu demandes de faire un rappel ou de mettre enfin de créer une réservation ou un truc comme ça dans le calendrier, enfin ça ira pas au même endroit. Il y a des
Oui, sur la météo aussi, selon la manière dont tu lui poses la question, il va mettre les informations dans un ordre différent.
ouais.
Et c'est plutôt pas mal, je trouve. Notamment quand tu lui demandes des choses en rapport avec la pluie, où il te parle tout de suite de la flotte, et soit il te parle pas de température, soit il t'en parle très tardivement. Et il y a un côté très conversationnel pour le coup, et ça marche pas mal.
À la fois ça, mais d'un autre côté aussi, ça peut être très décevant parce qu'on peut vouloir poser une question, l'articuler correctement pour un humain, et derrière, l'assistant ne comprend pas.
Ouais, c'est vrai, ouais.
J'ai pas l'exemple en tête, mais bon, je crois que tu avais vécu cette situation aussi. Là, par exemple, c'est enfin, un truc de con, tu vois, c'est qu'on a deux ampoules Philips Hue au plafonnier, une le plafonnier du salon et l'autre celle de ma chambre, enfin de mon bureau. Quand on lui dit plafond, même juste plafond studio par exemple, bah, il va allumer les deux plafonds, quoi, tu vois.
Oui, on a l'exemple au bureau où parfois, sans vouloir remettre sur le tapis le problème d'avoir connecté l'éclairage des toilettes de la réception, mais quand le détecteur de mouvement marche pas et que tu as allumé les lumières manuellement, bah, il faut les éteindre manuellement. Donc en général, je passe par Siri. Et si tu lui dis éteins la lumière des toilettes, alors que dans HomeKit c'est bien marqué toilette au pluriel, Siri va te demander est-ce que vous voulez dire de la toilette?
Je me demande si renommer la pièce en des toilettes, tu vois, ajouter l'article avant, je me demande en vrai.
Et
Peut-être que
c'est
ça
là où ça
marcherait.
justifiait mon titre, l'intelligence superficielle, parce que
Ouais.
on n'y est pas encore tout à fait. En tout cas, là-dessus, on n'y est pas.
Je pense qu'il y a encore un certain progrès à faire. Après, je serais pas étonné que ça se fasse de manière tardive, mais une fois que ça arrive, ce sera explosif, parce qu'on aura trouvé un nouveau mode d'intégration au langage naturel, tu vois. Mais tant qu'on n'y est pas, c'est évident que ça prendra beaucoup de temps.
Mais il y a quelques années, j'avais écrit un article sur l'écriture.
Ouais. Très méta, ça.
Et écrire, tout simplement, il s'appelait cet article, sur lequel je reviens souvent. Et je me demandais notamment si. Enfin, je suis passé du stylo à la machine à écrire, de la machine à écrire à l'ordinateur, et comment de changer d'outil, ça change aussi la manière dont tu écris. Et à la fin, je citais Nietzsche pour parler de la synthèse vocale, puisque lui, ayant fini aveugle, ses derniers textes, c'est des textes dictés. Et son écriture change. Quand tu lis Nietzsche, à la fin de sa vie, ça change complètement, et tu l'entends dicter, ce que je trouve fascinant. Et à l'époque, commençaient à arriver les applications de transcription vocale qui étaient plus ou moins fiables.
Oui.
Et je me disais, bon, bah, c'est bon, quoi. Dans 10 ans, c'est évident qu'on pourra dicter, quoi. Et effectivement, aujourd'hui, c'est évident, on peut dicter. Là, cette année même, donc 9 ans seulement après ce papier, pas 10 ans, on a dans la nouvelle version de macOS la possibilité de dicter sans limite de temps. La reconnaissance vaut ce qu'elle vaut, mais elle n'est pas mauvaise, et on y est, quoi. On peut. Et je disais d'ailleurs à l'époque, hein, je me demandais si ça produisirait pas un altertexte, et c'est intéressant parce que la transcription n'étant pas parfaite, elle produit un altertexte. Donc on y est, on est parfaitement dans ça. Mais l'idée que j'avais derrière en tête aussi, c'était que si le logiciel était capable de transcrire ta parole, il était capable de l'interpréter.
Mmh.
Et à l'époque, Siri devait avoir 3 ou 4 ans, et donc ça me, ou même pas, 2 ou 3 ans. Et ça me semblait évident que bah, si tu sais transcrire du texte, l'étape logique d'après, c'est de savoir l'interpréter, et donc ça démultiplie les capacités de Siri, parce qu'un des grands problèmes de Siri à la base, c'est de, d'avoir une transcription qui est fiable.
Oui.
Et je crois que je me suis loupé là-dessus. C'est-à-dire que la transcription, on l'a, elle est à peu près fiable. On n'est pas à 100%, mais on est sur des pourcentages d'erreurs relativement faibles.
Oui, quand même.
La synthèse vocale, elle est à ce point bonne que maintenant la voix de Siri, c'est une voix purement de synthèse. Mais il manque tout ce qui est au milieu. C'est-à-dire comment tu connectes la transcription de ta demande à la reformulation et à l'expression de la réponse par Siri. Et je crois que je suis passé un peu rapidement de l'un à l'autre sans me poser la question de ce qu'il y avait au milieu. Or, 10 ans après, ou pas tout à fait 10 ans après, ce qui est clair, c'est que le problème, c'est ce qui est entre les deux, quoi.
Bah, je vais quand même apporter une nuance à ça, parce que quand je convoque Siri, quand je l'invoque sur mon téléphone tout puissant, j'ai ma phrase qui s'écrit en direct, tu sais, et après coup, il réinterprète certains mots. Et ça ne veut plus rien dire.
C'est un vrai problème, oui.
Donc, en fait, je pense quand même qu'on est dans l'étape de compréhension. On est. J'entends ce que tu dis avec le côté bon, la dictée vocale. Mais je suis quasiment certain que la dictée vocale est plus fidèle au texte oral que Siri ne l'est.
Oui, ça clairement. Oui.
Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est la même technologie, j'imagine. Enfin, je suppose. Mais derrière, ça doit être ressassé par des algorithmes et tout. Et je crois que c'est eux qui font de la merde. Et du coup, de là, quand même, un bon taux d'erreur. Donc, ça, c'est une observation que j'ai faite quand même.
Mais justement, je pense que c'est dans l'aller-retour entre la compréhension locale de ton téléphone et la pseudo-intelligence de Siri qu'il y a un truc qui casse. Et en fait, ce qui est là où je pensais que ce qui était vraiment important, c'était la première étape, qui était avoir de la donnée de qualité et de la donnée fiable. En fait, c'est pas le point le plus important. Parce que cette donnée, on l'a aujourd'hui de manière relativement fiable. Et le problème, c'est que une fois qu'elle est passée par ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, ça devient n'importe quoi. Et on le voit avec l'image, hein, où quand on a ces machines qui rêvent, ça y est, les moutons, les robots rêvent de moutons électriques. ces images, elles veulent rien dire. Enfin, elles représentent rien. C'est de la branlette d'informaticien, quoi. Le daydreaming des algorithmes de ML. Et je me demande, c'est pas un peu la même chose avec le cerveau de Siri, quoi. Où en fait, on a programmé un truc. Ces espèces de réseaux neuronaux, on sait pas vraiment comment ça marche à l'intérieur, enfin, on sait comment ça marche, mais on sait pas comment les données sont mélangées à l'intérieur, et le souci, c'est que quand ça ressort pas forcément dans le bon ordre.
Oui, c'est ça.
Et je crois que, parce que le champ de l'intelligence artificielle était pas nouveau, mais en tout cas si peu médiatisé à l'époque, j'ai un peu raté cet écart, et j'ai un peu raté justement qu'est-ce qui se passe dans le cerveau.
Je pense que c'était difficile à prévoir quand même aussi. Aujourd'hui, on est au début de ça, enfin, de tout ce qui est machine learning et tout. Enfin, en tout cas, ça a des évolutions qu'on n'envisageait pas tout à fait de cette manière il y a 10 ans.
Mm-hmm.
À la fois en bien et en décevant, hein, je veux dire, c'est dans les deux aspects. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse sur les générations d'images en intelligence artificielle. J'ai toujours trouvé ça très glauque, personnellement.
C'est effrayant, ouais. Effrayant.
Épouvantable. Passons. Mais Mais du coup, ouais, je pense que c'était quelque chose de difficile à envisager. Et la manière dont ça a bifurqué aujourd'hui, qui est différente de ce qu'on voyait, en tout cas dans la pensée, il y a 10 ans, fait que les conclusions seront différentes d'ici 10 ans encore.
Oui.
Je pense qu'on est sur une trajectoire un peu différente. Ouais.
Et il y a deux bifurcations. La première, c'est que l'intelligence artificielle est absolument pas artificielle.
Oui, bien sûr.
Et qu'en fait, la quasi-totalité de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est en fait des tâcherons qui sont payés à quelques centimes du clic, et en fait, ce sont des intelligences très très humaines. Et en fait, Siri, c'est un vaste réseau d'exploitation de travailleurs du clic. Enfin, c'est un réseau d'oppression de travailleurs du clic, hein, exactement comme Google Duplex. Là aussi, largement écrit sur le sujet. Et la deuxième bifurcation, c'est que Siri, ça n'est plus un assistant vocal. Siri, c'est la marque de l'intelligence d'Apple. Et si tu enlèves la voix de Siri, si tu regardes Siri comme ce qui se passe sur ton téléphone, je crois que Siri a très très largement dépassé sa promesse. Et où ça marche au-delà de toutes les espérances.
Mmh.
Avec des trucs très bêtes, hein, mais le rappel d'anniversaire, l'ordre des widgets dans une pile de widgets, la recommandation des listes de lecture dans musique, les souvenirs dans photos, enfin tout ça, ça relève de Siri aujourd'hui. Et c'est... Enfin, d'abord, c'est des trucs qu'on n'avait absolument pas vus il y a 10 ans. Et ça va vachement plus loin que ce que la promesse de l'assistant vocal à l'époque.
Et c'est pas mal pour le coup, parce que
ouais.
Autant le côté, c'est vrai qu'on est, on envisage Siri d'abord par le Louis, quoi. On pense que c'est cette voix, mais non, c'est tout un système. Et toutes les recommandations de Siri, toutes les widgets de pile intelligente ou les suggestions de photos, tout ça, c'est vrai que, enfin, je m'en sers tout le temps maintenant. C'est très efficace. C'est très bon à prévoir, en fait. J'avais peur que ce soit pendant longtemps un avantage de Google parce que, encore une fois, accès à données et moins de. Enfin, plus de liberté prise par rapport au traitement, tout ça. Mais Apple s'en sort plutôt très bien, je pense, là-dessus. Et pour le coup, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça dépasse ce qu'on imaginait et ça va beaucoup plus vite. C'est à la fois plus rapide et plus efficace. Ouais. Ouais,
oui, parce que bah, comme toujours, c'est cumulatif. Et il y a une digue qui a sauté chez Apple sur l'exploitation des données personnelles.
Oui.
Et j'ai envie de dire tant mieux. Et donc, c'est la progression exponentielle. Chaque année, on a de plus en plus de nouveautés qui sont liées à ça et où c'est transformateur parce que quand tu reviens sur un système, ça m'arrive de temps en temps de revenir sur un système qui a même seulement 4 ou 5 ans, quoi. Et tu te rends compte du nombre de choses que tu fais sans y penser qui dépendent complètement de cette intelligence dite artificielle. Et tu fais, mais bordel.
Ouais. C'est beaucoup de chemin parcouru pour une... c'était, on avait beaucoup dit que le 4, enfin le S de l'iPhone 4S tenait pour Siri. Et je me rappelle de la présentation, enfin du keynote, parce que... notamment Steve Jobs était absent du...
Ouais, un peu lugubre, ouais.
Un peu lugubre, un peu étrange. Forstall qui essaie de faire le show, tout ça, bon. Et, la présentation de Siri avait bien marché, quand même. C'était pas trop mal. Tu sais, à l'époque, ils avaient beaucoup axé sur Wolfram oui. Data...
Wolfram Alpha, et puis beaucoup sur la météo, aussi. Et je pense que c'est très révélateur, parce que c'est oui. La conversation de base des humains, c'est la météo, et puis c'est ça, quoi. Enfin, ouais.
Et puis le beau temps, exactement. C'était une bonne idée, effectivement. C'était intelligent. C'était un keynote avec un peu particulier, quand même.
Je l'ai revu pour le papier. C'est assez... évidemment, t'as le bénéfice de... Enfin, on sait ce qui s'est passé après, mais ce qui n'était pas le cas le jour même. Mais c'est vrai que tu sens l'ambiance pesante dans la salle. Et c'est un keynote vraiment particulier. Ouais. Et c'est intéressant. Au moment où Jobs meurt, t'as la naissance d'un champ complet, quoi. Et c'est assez étrange, hein, comme parallèle. Mais parfois il y a un peu de ça, quoi.
Tu remarqueras que c'est une divinité, Siri, une divinité très exigeante en sacrifice, hein, parce que il y a Jobs, il y a Forstall, il y a tous les créateurs de Siri initiaux qui sont partis aussi, quand même, faut pas oublier. Donc, au final, elle demande des sacrifices.
Ouais, si tu veux filer la métaphore, un truc qui m'obsède un peu ces derniers temps, c'est le fait que de plus en plus les capacités logicielles sont gravées dans le silicium, gravées dans le processeur. Et en écrivant ce papier, cette image m'est venue, mais il y a le corps de Siri et l'âme de Siri. Et le corps de Siri, maintenant, il est gravé dans ton téléphone, il est gravé dans le silicium. Tes datas, elles sont digérées en local. Tu vois, ton iPhone, c'est les entrailles de Siri. Et puis, il y a l'âme de Siri dans le nuage. Et c'est pareil, je crois que c'est quelque chose qu'on a... Enfin, en tout cas, que j'avais pas vu il y a 10 ans. Mais parce qu'Apple parlait aussi beaucoup du processing local et voulait absolument pas toucher au nuage. Et cette articulation, maintenant, entre tes données qui sont ni tout à fait complètement locales, ni tout à fait complètement dans le nuage, mais les capacités primales, quoi, le cerveau reptilien de Siri... Il est incarné dans le silicium des processeurs d'Apple. Et la culture, ce qui s'oppose à la nature, c'est le nuage. C'est très, très élevé et très. Et c'est pas à ta portée, c'est pas quelque chose que tu peux toucher, alors que ton iPhone a une tangibilité, pour revenir sur ce mot-là. Alors c'est un peu. C'est un peu barbapapa comme métaphore, mais. Mais je sais pas, il y a. Je, trouve aussi intéressant qu'il ait pris du volume, quelque part.
Il est près du corps, un peu, hein. Oui, une épaisseur. Ouais. Et d'autant plus qu'il y a eu ce chemin aller-retour, en fait. À l'iPhone 4S, on parlait beaucoup, effectivement, de local. Beaucoup ensuite dans les années qui ont suivi. Ensuite, c'était très dans le nuage. Et là, on revient à des opérations locales avec iOS 15. Pour le meilleur, d'ailleurs, je pense, parce que c'est quand même beaucoup plus
rapide. Ah, c'est infiniment plus rapide.
Quotidienne. Ah ouais.
Et c'est marrant parce que quelque part, comme d'habitude, il y a un juste milieu, tu vois.
In medio stat virtus. Je sais pas qui dit ça. Je crois que c'était Aristote, mais en fait, a priori, c'est pas Aristote.
Merci à ton éducation classique. Donc la bonne approche, c'est ni d'être 100% local, ni d'être 100% dans le nuage. Et on le voit d'ailleurs, hein, Google aussi refait du matériel. Et oui, c'est... Enfin, pareil, c'est quelque chose qui était pas évident. Et j'ai évidemment revu la vidéo de 1987 sur le Knowledge Navigator. Ce besoin de donner à l'intelligence artificielle une apparence humaine, quoi. Qui avait d'ailleurs été un débat, hein. Fascinant quand tu lis quand tu lis et le bouquin de Scully et les communications internes à l'époque, où en interne, ils étaient pas forcément très heureux que le marketing se dise on va lui donner une apparence corporelle, quoi. Et aujourd'hui, d'ailleurs, aucun des assistants personnels n'a une représentation physique. Certains ont des noms, certains ont des voix, mais ils n'ont pas de représentation physique. Mais, je pensais pas que... Enfin, c'était évidemment impossible de prédire tout ce que Siri allait devenir, mais je pensais qu'on irait à la fois infiniment plus vite et infiniment plus lentement sur la partie vocale. Mmh. Infiniment plus vite dans le sens que je pensais qu'aujourd'hui, on en serait beaucoup plus loin sur la capacité de compréhension, et infiniment plus lentement, parce que je pensais que l'ingestion de données et le traitement des données est un vrai problème compliqué d'informatique, et le jump, ça a été le jump du ML et des nouvelles techniques d'intelligence dite artificielle. Et on est, au final, sur quelque chose de complètement différent.
Très différent. Et pourtant, l'inflexion n'est pas énorme du schéma initial. Parce que la vision de l'assistant, le Knowledge Navigator de... C'était quoi, de 97, c'est ça ?
87, même.
87 ?
Ouais.
Ouais. Bah, certains éléments de langage se retrouvent aujourd'hui, tu vois. Il y a quand même une certaine identité de concept. Tu parles de l'assistant, forcément, tu penses à certaines choses qui sont universelles, je pense. Mais je ne sais pas trop à quel moment s'est produite l'inflexion, en fait. À quel moment on a changé de vision sur ce qu'était l'assistant, ce que ça deviendrait. Est-ce que ce n'est pas juste une nécessité, en fait ? Est-ce que ce n'est pas des tests avortés qui ont mené vers ça ?
Oui, puis je crois qu'il y a aussi il y a de toute manière le changement fondamental de paradigme quand on commence à manipuler les nouvelles techniques d'intelligence artificielle depuis 5, 6, 7 ans, et où là, ça... Enfin, quand tu vois que soudainement, il y a toute une classe de problèmes très difficiles qui peuvent être résolus de manière, certes très imparfaite, mais de manière beaucoup plus facile, où il y a un côté... Garbage in, garbage out, quoi. C'est tu lui donnes n'importe quoi et sort n'importe quoi, mais quelque part c'est beaucoup plus facile de le faire que de le faire de manière propre et le faire de manière conventionnelle. Je crois que c'est vraiment ça qui est transformateur. Et aussi un coup de bluff marketing qui est de dire Siri, c'est pas seulement la voix, mais c'est aussi de manière générale l'intelligence, et où du coup t'as l'impression qu'elle est plus intelligente qu'elle ne l'est, parce que tous les défauts de l'interface vocale sont compensé par les grandes qualités de la proactivité par ailleurs.
Ouais.
Le seul truc qui me déçoit, c'est que quand tu regardes la vidéo sur le Knowledge Navigator, qui est pour moi ça reste un programme, il y a une interaction dans le travail, une interaction complète entre l'humain et la machine, et où il n'y a pas de mode différent pour l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, elle est là, elle est tout le temps présente à l'écran, et elle vient t'aider quand tu lui demandes de l'aide, et elle a aussi un aspect proactif. Siri, même s'ils ont enlevé l'interface en forme de rideau, ça reste un mode séparé.
C'est vrai.
Et où il y a très très peu d'interactivité. C'est encore pire sur Mac, où Siri garde sa place dans une palette, et où sinon est complètement absent.
Ah oui.
Mais il n'y a pas de... Je pensais qu'il y aurait une plus grande infusion de Siri dans l'interface, que ce serait... de la même manière qu'on a des raccourcis clavier, qu'on a le menu contextuel, ben on aurait Siri qui viendrait pas comme Clippy, mais pas loin, tu vois.
Ah, Clippy.